Ça y est, nous y sommes. Les athlètes sont prêts. Prêts à nous captiver. Prêts à repousser les limites pour atteindre l'impossible. Prêts à battre de nouveaux records qui résonneront dans l'histoire. Et nous serons avec eux dans les joies et les peines. Nous sommes là à chaque étape. Start your impossible. Dépassez l'impossible. Toyota, partenaire mobilité officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
RMC, 19h-20h, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
Jusqu'à 20h, comme tous les jours, voici l'heure de l'After Tour pour revenir sur cette 13e étape du Tour de France qui s'est achevée tout à l'heure à Pau, une étape où l'on pensait s'ennuyer. On n'a pas eu le temps de s'ennuyer vraiment avec ces tentatives, ces bordures qui ont été réalisées, même si elles n'ont pas été jusqu'au bout. Car Jasper Philipsen, le sprinter numéro 1 mondial, eh bien, s'est imposé aujourd'hui, numéro 1 mondial, mais pas encore numéro 1 sur le Tour, car Girma mène toujours 3 victoires à 2 et surtout une grosse avance au classement du maillot vert. On va voir si la bataille pour le maillot vert est déjà terminée ce soir. On va également revenir sur ce sprint houleux. On en a parlé il y a quelques instants. La faute à qui? La faute à Capio qui s'est arrêté en plein sprint, ou la faute à Van Gils qui lui a mis un petit coup pour passer sur le côté gauche. On en débat dans un instant. Et puis évidemment l'étape de demain, l'entrée dans les Pyrénées. La grande bagarre des montagnes va débuter donc dans le Tour de France. Toute l'équipe de l'After est réunie à mes côtés. Cyril Guimard. Bonjour Cyril.
Bonsoir.
Bonsoir, bah oui, c'est presque l'heure de l'apéro, mon Cyril.
Oui, tu dis bonjour, donc je préfère rectifier. Des fois que les gens se réveilleraient.
C'est vrai. Voilà, j'en connais un qui se réveille, en tout cas. Jérôme Coppel est
bonsoir,
avec nous.
Bonsoir, Christophe. Bonsoir à tous.
Arnaud Souk, qui descend de la moto. Enfin, ça fait un moment qu'il est descendu quand même.
Oui, ça fait deux heures de ça, à peu près.
Bah oui,
ça allait vite aujourd'hui.
Oui, ça allait super vite. On attendait une arrivée vers 17h30, 17h40. C'est arrivé à 17h05. Et Pierre-Yves Leroux, évidemment, toujours là, fidèle au poste.
Mais toujours réveillé, les jours raccourcis, certes, on a cru que ça allait être le jour le plus long et en fait, ça a été une étape vraiment passionnante.
Une très belle étape aujourd'hui remportée donc par Jasper Philipsen. Le peloton n'a pas lézardé en direction de Pau, bagarre de tous les instants, favorisé par un vent qui soufflait plutôt fort, mais au bout du compte, c'est à nouveau un sprinter qui s'impose, en l'occurrence Jasper Philipsen.
Wout van Aert est en train de faire le ménage avec Tadej Pogacar dans sa roue, avec Remco Evenepoel qui est revenu. C'est une étape de dingue entre Agen et Pau. On ne s'y attendait pas du tout.
Comme c'est intéressant.
La flamme rouge.
Binyam Girmay pour une 4e victoire.
Et là, c'est le drame.
Grosse chute avec Arnaud Delis qui est pris dans cette chute. Axel Zinglet également. Non. Il n'y aura qu'un petit groupe de membres pour aller chercher la victoire d'étape. Il y a Christophe Laporte qui est en train d'emmener pour Wout van Aert. Wout van Aert en 2e position. Et Binyam Girmay qui est en 4e position. On aperçoit Philbo, c'est Pascal Ackermann et Jasper Philipsen qui sont toujours là. Mais il y a eu vraiment cette grosse chute dans ce fameux virage. Juste avant ce fameux virage, ils ne sont plus qu'une quinzaine pour aller se bagarrer. 250 mètres de l'arrivée avec la possibilité pour Wout van Aert ou Jasper Philipsen. Jasper Philipsen, ça sera pas Binyam Girmay aujourd'hui, alors que Clément Rousseau est bien positionné aussi. Wout van Aert en 2e position. Jasper Philipsen qui va peut-être pouvoir lever les bras. Attention à Wout van Aert qui essaye. Non. Et ça sera pour Jasper Philipsen, the faster Jasper Philipsen qui s'impose à Pau.
L'hymne belge pour fêter la victoire de Jasper Philipsen qui s'impose pour la deuxième fois dans ce Tour de France. Lui qui avait débuté de manière plutôt laborieuse avec son équipe Alpecin, et bien le voilà désormais avec deux succès d'étape. Est-ce qu'on peut dire, messieurs, qu'il a déjà réussi son Tour de France? Quand on en décroche deux quand même, c'est magique, mais il faut comparer par rapport à l'année dernière, peut-être. L'année dernière, ouais. C'était 4. Ouais. C'était particulièrement réussi. Là, on peut dire quoi?
Je trouve qu'on est gonflé de dire qu'il aurait potentiellement raté son tour.
Non, pas raté.
Deux victoires, deux deuxième places.
Est-ce qu'il est déjà réussi?
Deux victoires, deux deuxième places. Moi, je trouve que oui. Et je trouve que déjà, avec une victoire, il était réussi. Et là. Moi, je regarde quand même, d'un point de vue comptable, quand même, quand t'as 4 top 2, donc ouais. 2 victoires.
Tu peux moi, pas dire je trouve que ce soir, il est plutôt réussi son tour. Une victoire pour un sprinter comme lui, avec l'équipe qu'il a autour de lui, qui est construite autour de lui, avec les opportunités qu'il y avait, c'était un peu juste pour un sprinter de ce calibre, avec cette équipe-là autour de lui. Deux, là, voilà, il commence, non, pour moi, il a réussi son tour, mais, je pense qu'il le venait gars, pour des victoires d'étape et le maillot vert. Et pour l'instant, le maillot vert, il en est loin.
Le gars a été battu par Cavendish, qui est quasiment à la retraite, il a été battu par Groenewegen, il est tombé quand même sur un os sévère, c'est Binyam Girmay, qu'on n'attendait vraiment pas à ce niveau-là. Ça fait 5 opportunités.
Il n'est pas encore au niveau où il devait être.
Il pas tout à fait au même niveau que
emmené quand même par le champion du monde.
C'est vrai, mais c'est toujours compliqué. On sait que les sprinteurs, des années, ils arrivent à en rafler 3 ou 4. L'année d'après, c'est plus compliqué. C'est dur d'enchaîner sur X Tour de France, X nombre de victoires.
Oui, mais là où on l'avait placé, l'attendait,
c'est sûr.
Il est encore loin.
Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il a raté son tour ou qu'il rate son tour ?
Non, non, pas rater son tour. Réussir, il y a une différence entre rater son tour et le réussir complètement. Il y a une marge entre
pour
les
moi
deux,
ce soir il l'a réussi.
Cyril,
bien, il est parti sur les bases de l'an dernier avec l'euphorie de l'an dernier. Il espérait au moins faire aussi bien, ou si c'est pas aussi bien, pas aussi raté, que parce que il a quand même deux ratés. Malheureusement, une chute sur la première étape réservée aux sprinters, la troisième étape, et puis un déclassement.
Un déclassement, ouais. Ah ouais.
Donc, à partir de ce moment-là, il y a une frustration obligatoire. Il n'a pas réussi le tour qu'il, lui, il avait envie de réussir. N'importe quel coureur,
oui,
n'importe quelle équipe,
dire, si c'était
aurait
Arnaud Démare,
aujourd'hui deux victoires d'étape
et, exceptionnel.
Et une deuxième place au classement par points, plus les places de second qu'il a pu avoir, on peut dire oui, c'est un tour réussi. Pour le partenaire, sur un plan purement économique, le retour sur investissement est réussi, mais c'est pas ce que lui, il espérait.
Oui, c'est ça. Il le dit d'ailleurs.
Et d'ailleurs, on va l'écouter tout de suite, Jasper Philipsen, parce que l'année dernière, vous vous souvenez, lorsqu'il remportait une étape, c'était grand sourire, voilà, on sentait qu'il était libéré. Là, même encore aujourd'hui, après un deuxième succès, je trouvais qu'il avait pas l'air si heureux que ça.
Ouais, t'as pas envie d'aller en soirée avec lui, c'est sûr.
La force de l'habitude, au bout d'un moment, t'es moins, moins euphorique, peut-être.
Allez, on l'écoute. Jasper Philipsen, donc vainqueur de cette 13e étape du Tour de France.
Je pensais qu'ils allaient continuer jusqu'à la ligne d'arrivée. Moi, j'ai continué à y croire parce que je me sentais bien, bien mieux que la semaine précédente. J'ai pu commencer mon sprint en toute confiance et je suis heureux que personne n'ait pu me dépasser. Oui, il était parfaitement piloté par Christophe Laporte. J'étais un peu dans la roue, mais je me suis lancé. J'ai été pris par le vent, mais j'ai pu le dépasser. Donc je suis vraiment content de mon sprint et de mes sensations.
Voilà, parce que Jasper Philipsen a changé de poisson pilote aujourd'hui. Mathieu Van Der Poel était dans l'échappée matinale, on va l'appeler comme ça, même si l'étape a commencé en début d'après-midi. Et ensuite, Mathieu a été largué par le peloton principal. Et du coup, il a retrouvé, pour l'aider, donc, d'autres garçons. En tous les cas, il a su aller de roue en roue, mon cher Pierre-Yves.
C'est pas
donc,
toujours...
forcément, on se dit qu'il n'a pas besoin, comme on pouvait le dire il y a quelques temps, d'un poisson pilote.
Je me suis plongé dans toutes les victoires de Jasper Philipsen depuis 2021 pour voir justement à quel moment il était accompagné de Mathieu Van Der Poel, à quel moment il ne l'était pas. Je vous rappelle juste les quelques mots de Jasper Philipsen après la victoire à Bayonne, c'était l'année dernière. Il disait à Mathieu Van Der Poel: putain mec, tu m'as détruit. Quand Mathieu est lancé et que vous êtes dans sa roue, vous savez qu'aucun autre coureur ne peut le passer. Bon, le plus dur, c'est de garder sa roue, mais c'est une impression incroyable. C'est toujours spécial de gagner comme ça. C'est vrai que avoir un Mathieu Van Der Poel, c'est forcément plus facile pour gagner une étape ou une victoire, quelle qu'elle soit. Mais en 2021, il gagne 9 courses. Jamais avec Mathieu Van Der Poel. En 2022, il gagne 9 courses également. 4 avant le Tour de France, sans Mathieu Van Der Poel. Et sur le Tour de France, il gagne sans Van Der Poel, puisqu'il gagne sur la fin du Tour, et Van Der Poel a abandonné après la 11e étape. Et puis, il fait encore 3 victoires ensuite, sans Mathieu Van Der Poel. Ça veut dire qu'en 2022 et en 2021, il y a 18 victoires sans Mathieu Van Der Poel. En fait, on est sur cette impression, parce qu'elle est celle du Tour de France, qui arrivera en 2023. Il est à 18 victoires en 2023, c'est-à-dire qu'il double les deux années précédentes. Et déjà, avant le Tour de France, il gagne 3 fois sur 5 avec lui, 3 fois sur 4 avec lui sur le Tour de France. Mais ensuite, il y a 9 victoires où Mathieu Van Der Poel n'est pas là. Donc, c'est vraiment ce Tour de France qui nous a marqué, nous, en 2024. Il est déjà à 6 victoires. Il y a eu 0 avant Milan-San Remo. Et là, c'est pour moi l'exemple type de la capacité de Mathieu Van Der Poel à donner une victoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette fin de course. On est à 6 km de l'arrivée. Il y a Tadej Pogacar qui s'en va. Il y a Mathieu Van Der Poel qui lui prend la roue, qui fait tout le boulot et qui va finalement donner cette victoire à Philipsen. Et puis derrière, il y a ce Tour de France, effectivement, où il y a encore une sur deux, finalement,
Donc on a cette impression que Mathieu Van Der Poel est le poisson pilote attitré, mais sur l'ensemble des courses, c'est pas du tout le cas. En fait.
Mais je pense que ça fausse, ce qui fausse notre image, c'est qu'on voit un champion du monde ou un coureur du calibre de Mathieu Van Der Poel se mettre à la planche pour un autre sprinter, alors que peut-être il pourrait gagner des étapes pour lui. Et en fait, c'est vrai qu'on a cette vision où on est un peu focus toujours sur le Tour de France. Donc c'est bien de voir que sur l'ensemble de l'année, d'une, il gagne plein d'autres courses ailleurs que sur le Tour de France, et que deux, il en gagne très souvent sans Mathieu Van Der Poel. Mais je pense quand même que ça doit lui faciliter un petit peu la vie quand il a Mathieu Van Der Poel en poisson pilote au top de sa forme.
Ça aide, ça aide d'avoir. Oui, et puis la différence était tellement nette l'an dernier sur le dernier relais de Van Der Poel.
Comme elle l'a été l'autre jour lors de la première victoire de Philippe Sainz.
Et encore moins spectaculaire que l'an dernier, parce qu'il l'a sorti, mais l'an dernier, quand il le sortait, il l'emmenait avec une longueur d'avance sur tout le monde. Alors que cette année, il n'a pas les moyens de le faire.
Mmh. Oui, il est un petit peu moins fort.
Il est un petit peu...
Alors, Philippe Sainz est malgré tout toujours mené, on va prendre les références au football, mené 3-2 par Binyan Girmay, et surtout mené de 75 points au classement du maillot vert. On rappelle qu'il ne reste plus qu'une étape pour les sprinteurs, a priori. Oui. Avec 75 points, est-ce que l'affaire est pliée? Est-ce que le maillot vert, à moins évidemment d'une chute ou d'un abandon ou d'une mise hors délai de
Mais on
de
met Girmay, ça, on met ça hors...
Mais ça, on met ça de côté. Est-ce que c'est plié, Cyril?
Pour moi, à 95%, oui, c'est plié. Il faudrait des circonstances qu'on a du mal à imaginer. Déjà, ça voudrait dire que il faut qu'il gagne l'étape de Nîmes et que Girmay ne marque pas de points, ce qui le ramènerait à 25 points. Mais après, il ne va plus aller gagner une seule étape. Et Girmay non plus. Donc après, ça se jouera sur les sprints pour le maillot vert, les sprints intermédiaires, pendant le déroulement de l'étape.
Pour moi, il y en a 5 où c'est encore possible qu'il y ait match. Mais il ne faut pas qu'il y ait une échappée qui soit partie. Voilà.
Non, mais il y a tellement de paramètres qui font que. Et si on arrive au classement intermédiaire, qui va faire le sprint pour le maillot vert? C'est fini.
Ouais, il y a plus que ces deux.
Donc ils seront plus que deux, donc ils finiront premier et deuxième ou deuxième et premier. Donc c'est à chaque fois quoi? S'il n'y a pas d'échappée, c'est 2 points. Donc ça fait 6 étapes à 2 points, ça fait 12.
Ils vont pas forcément terminer premier et deuxième,
en plus,
Cyril.
Voilà.
Parce que par exemple, si tu regardes le sprint intermédiaire de l'étape de dimanche entre Loudainville et le plateau de Baye, il est situé après la première ascension.
Oui, donc
là, ça peut être intéressant. Là, on ne sait jamais. Des fois, il faut passer le col. Mais bon, j'en sais rien moi. Imaginons que la course se lance pas forcément comme on l'imagine et que l'un des deux se glisse dans une échappée et qu'il soit plus apte que l'autre.
Je suis d'accord avec toi, mais faut une grosse imagination.
Il faut une grosse imagination. Je suis d'accord, mais bon, on peut. Effectivement.
Non, mais dans l'absolu, tu as raison.
Ouais, pour moi, il y a deux sprints intermédiaires qui sont vraiment jouables pour eux. C'est l'étape de Nîmes, mais il est quand même assez loin, donc il y aura peut-être une échappée. Et puis, c'est l'étape qui va arriver à Isola 2000, parce que le sprint intermédiaire est seulement au bout de 20 km. Sinon, les sprints intermédiaires sont assez loin.
Celui de demain aussi. Celui de demain, il est au pied du Tourmalet.
Oui, mais il y aura, j'imagine, une échappée qui sera déjà faite quand même d'ici. Ben,
est-ce qu'ils ne peuvent pas prendre l'échappée?
Oui, mais c'est ce qu'on disait pendant le direct.
Non.
Girmay, lui, il a qu'un mec à sortir.
Attends.
Girmay, c'est
non, mais s'il y en a un qui prend l'échappée, l'autre il fait rouler son équipe derrière. C'est pas
après, si Philippe Sen devait gagner plus de points que Girmay, faudrait qu'il ait aussi des coéquipiers qui viennent se mettre entre lui et Girmay. Ça fait quand même beaucoup de si pour.
Et
personne ne va plus les faire. Voilà. Donc ça.
Va venir s'immiscer dans la guerre entre les deux.
Pourquoi?
Pourquoi faire?
Pourquoi un Van Der Poel?
Mais Van Der Poel, il va emmener, si tu
oui,
veux.
Oui, mais pour permettre à Philippe Sen de gagner quelques points sur Girmay, mais il n'y aura pas...
Est-ce que tu imagines Gaviria, qui est 7e avec seulement 100 points, il va venir faire le sprint entre les deux protagonistes du maillot vert? Ils ne feront même pas, ne serait-ce que par respect.
Bon, on l'a bien compris, vous êtes quand même assez peu optimiste sur un changement de maillot vert et un changement d'épaule pour ce maillot vert. On verra dans les jours qui... D'ailleurs, Est-ce que vous pensez qu'il y aura beaucoup de sprinteurs à l'arrivée à Nice dans une grosse semaine? Bah,
ceux qui seront impliqués pour le maillot vert déjà.
Voilà, donc c'est
moi
deux.
Je dis non mais imaginons, enfin pardon de revenir là-dessus, mais imaginons Jasper Philipsen gagner à Nîmes et Guirmay pour une raison X ou Y ne pas prendre de points, parce que c'est pas impensable de voir qu'ils puissent pas disputer le sprint. Ils pourraient potentiellement revenir dans les coups.
Il en reste 25.
25 points à prendre, oui, mais bon, avec tout ce qu'on a expliqué, enfin, donc là, dans cette mesure-là.
Mathématiquement, c'est pas fini.
Dans cette mesure-là, on pourrait imaginer les deux aller jusqu'à Nîmes. Après, je suis pas sûr que s'il y en a un qui est. Effectivement, c'est Philipsen, il a 80 points de retard au pied des Alpes, oui.
Et puis les autres, ceux qui sont pas dans la bagarre pour le maillot vert, là, je pense qu'on en verra plus beaucoup. Oui.
Il y a Turgis, Abrahamsen, Kokar, qui sont. Après, il y a Van Aert aussi. Ouais. Bon, écoute, ça devrait passer pour eux.
En tout cas, Philipsen s'impose devant Van Aert, hein, une nouvelle fois battu, mais qui se rapproche petit à petit. Ça fait plusieurs places de deuxième. Hein. Bon, il a l'habitude, hein, Van Aert, de signer des deuxièmes places. Cette fois-ci, celui qui l'a précédé n'a pas été déclassé. Donc, il reste deuxième. Hein.
Il reste deuxième, c'est bon.
Il n'y a pas de souci. En tout cas, il semble avoir retrouvé la forme. Et puis, il a peut-être manqué un petit peu de force, Van Aert, parce qu'il a été à l'origine des coups de bordure menés par son équipe. Et ça, forcément, Cyril, au bout d'un moment, ça se ressent dans les jambes. Hein.
Oui, il a fait de gros efforts à certains moments, avec l'ensemble de son équipe d'ailleurs, hein, lorsqu'ils ont relancé derrière l'échappée où il y avait le champion du monde, mais pas que, parce qu'il y avait aussi un coureur qui était dangereux avec Yates, qui était qu'à 7 minutes, donc il ne pouvait pas laisser partir. Donc là, ils ont fait un coup de force en tête de peloton, qui a échoué dans un premier temps, puisqu'ils sont revenus à 20 secondes. Mais là, à 20 secondes, l'échappée était tellement bien organisée, la bordure était tellement bien organisée, où tout le monde participait en fonction des intérêts de chacun. L'allure était linéaire, et donc ils sont arrivés à 20 secondes, et là, ils ont été obligés de se relever, parce qu'ils ne rentraient pas. Ils sont revenus dans le peloton, mais ils ont continué à rouler dans le peloton avec d'autres équipes qui sont venues leur donner un petit coup de main.
Alors là, tu es en train de me casser mon conducteur, parce qu'on devait en parler après de ça. Ah bon ? Je sais que tu adores me casser mon conducteur. Je voulais qu'on parle de Van Aert, du travail qu'il avait effectué.
Mais c'est ce que je t'explique. Ouais. Donc il a énormément travaillé à ce moment-là. Est-ce que c'est pas ce qui lui a manqué dans le sprint ?
Mais
alors, c'est peut-être ce qui lui a manqué. Mais il a été emmené de façon parfaite par Christophe Laporte. Ouais. Et Philipsen est arrivé 10 à l'heure plus vite. Il est passé, il a repris la roue. Mais là, il pouvait plus. Il n'avait pas les jambes pour repasser. Ouais. Donc aujourd'hui, il était inférieur à Philipsen dans le cadre du sprint.
Et il y a un élément qu'on avait évoqué hier aussi. Bon, il n'a pas l'air vraiment en difficulté, mais on était 2 jours après sa chute.
Ouais.
Et bon, voilà, ça a peut-être pesé un petit peu, mais bon, même si...
Ça n'est pas un avantage de toute façon.
Ouais, moi, je m'interroge plus sur après coup, comme ça, à froid, sur la stratégie de l'équipe Visma-Lisebike aujourd'hui. Parce que, OK, ils ont fait, on ne va pas te casser ton conduit, mais ils ont tenté ce coup de bordure pour revenir devant. OK, il y a Adam Yates, mais est-ce que tu as vraiment besoin, quand tu es Visma-Lisebike avec Vingegaard dans ton équipe, Yates, il a 7 minutes. Donc, il est encore 6 minutes derrière Vingegaard. Est-ce que tu as besoin de vraiment paniquer, de mettre ton équipe comme ça à rouler, créer un coup de bordure, alors que tu sais qu'Yates, éventuellement, s'il te reprend 2-3 minutes, il va faire l'équipier de Pogacar et il va les reperdre, ces 3 minutes, peut-être dès l'étape de demain.
Oui.
Donc, est-ce que tu avais besoin déjà de mettre ton équipe à la barre? Et ensuite, ils ont quand même beaucoup bossé pour pouvoir permettre à Van Aert d'essayer d'aller gagner son étape. J'ai l'impression que Van Aert, il veut tellement gagner que là, il joue un peu d'un coup sur 2 tableaux, une victoire d'étape pour Van Aert et bien sûr Vingegaard pour le général. Mais est-ce qu'ils n'ont pas limé déjà quelques coéquipiers, sachant qu'on a un gros week-end qui arrive?
C'est un scénario qu'on a déjà évoqué dans cette équipe par le passé. Et effectivement, ça peut coûter cher. Mais on voit qu'il y a des forces qui sont perdues aussi de l'autre côté dans le match. La journée, en fait, elle n'est pas anodine quand même. Hein. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure.
Non, pas anodine du tout. Anodine. Il suffit de regarder. Alors, on va parler de choses que je n'aime pas trop parler. Si vous regardez les datas aujourd'hui de tous les coureurs. Je peux vous dire qu'ils doivent être très hauts.
Mmh. Oui, et que ça risque d'avoir des répercussions dans les 2 étapes qui arrivent, hein, 2 étapes très difficiles dans les Pyrénées. Quand on a vu quand même qu'aucun des leaders ne s'est fait piéger. Hein. Je me rappelle par le passé, quand il y avait des coups de bordure, il y en avait toujours un qui passait par la porte. Là, ça n'a pas été le cas. Ils sont tous très attentifs et sur le coup. En tous les cas, les 3 premiers du classement général, ça, voilà, on va... souligner leur professionnalisme.
Hein. Ouais, ouais, aucun s'est fait piéger. Il y a eu une très légère alerte de, pour Remco Evenepoel, ouais, mais qui a réussi à boucher le trou parce qu'il s'appelle Remco Evenepoel. Après, c'était aussi une bordure, alors pas celle de Visma, mais après, quand vraiment il y a eu tous les favoris dans la première bordure, c'était une grosse bordure. On va dire, c'est pas quand ça s'est mis en route, ils n'ont pas fermé la moitié de la route et ils ne sont pas retrouvés que 20 coureurs. Il y avait quand même 50 coureurs dans la première bordure. Donc quand tu es leader du classement général ou leader de ton équipe, tu peux pas te faire piéger quand tu as 50 mecs à l'avant, surtout quand tu t'appelles Evenepoel, Vingegaard ou Pogacar. Donc c'est aussi, ils ont tous été vigilants, c'est une journée ultra stressante quand tu es leader d'une équipe, même quand tu es coéquipier, parce que tu dois t'occuper de ton leader. Et comme a dit Cyril, les datas doivent être ultra hautes et la fatigue nerveuse, elle, doit être très basse, parce que ça, c'est des journées qui te lessivent complètement.
Ouais. On va écouter Mauro Gianetti, le manager de la formation UAE, puisque son leader s'est retrouvé dans le coup, évidemment. Pogacar ne s'est pas fait piéger et pour lui, c'était plutôt une bonne journée, même si, il va l'évoquer également au micro d'Arnaud, il a quand même perdu un certain Juan Ayuso aujourd'hui. Mauro Gianetti.
Ça, c'est le Tour de France. Non, on s'attendait à une étape là, des sprints, peut-être une étape pas facile à regarder en télévision, mais finalement, c'était une grande étape. Et nous, le mouvement avec Adam Yates, c'était un bon mouvement parce que quand même, il nous a mis dans une bonne situation. On n'a pas dû rouler, on a pu rester relax. Juan, il n'était pas trop bien ce matin, mais pas mal. Rien de spécial, mais quand il était en course, il n'avait pas vraiment les jambes. Il disait les jambes, ça n'allait pas. Et dès qu'il essayait de faire un effort, il n'arrivait pas à faire des efforts. Et donc il était lâché, il a dit bon, qu'est-ce que je fais là, il ne va pas galérer une journée comme ça seul, et il a abandonné. C'est dommage parce qu'il était en très bonne condition, en plus il était au classement général, c'était un soutien très important pour Tadej, donc pour nous c'est une perte importante. Tadej il est bien, il est en bonne condition et il était devant aujourd'hui pour éviter les chutes, et puis il a un peu fait un demi-sprint aussi. Non, il est bien, l'équipe est bien, Joao il est bien, Adam Yates il est bien, donc on a vu aussi Jonas, il est bien, Evenepoel, enfin, il y a les costauds qui sont bien. C'est dommage qu'on n'a plus dans la course Primoz, parce que c'est un mec vraiment exceptionnel, un mec qui mérite un peu plus de chance.
Mauro Gianetti, donc le manager de la formation UAE, qui évoquait donc l'abandon d'Ayuso.
À ce moment-là, il ne savait pas qu'il avait été testé positif au Covid. Voilà, le médecin ne l'avait pas encore prévenu. Il y avait les parents de Juan Ayuso qui attendaient au bus du UAE Team Emirates. Si, je te vois faire la moue, Cyril, mais j'ai vu Mauro Gianetti aller voir le médecin. Non, il ne le savait pas à ce moment-là. Donc voilà, c'était juste pour dire. D'accord. Ça, mais il l'a appris dans les secondes qu'on suivit.
Bon, c'est une grosse perte forcément pour l'équipe UAE de perdre Ayuso, qui est quand même la pépite espagnole, qui était bien classée au Géant. Même si on l'a pas vu faire forcément toujours le travail d'équipier idéal jusqu'à présent dans ce Tour de France. On le sentait en réserve de la République.
Hein. Ouais, on n'avait pas l'impression qu'il se donnait pour l'instant à 100%, mais finalement il allait peut-être rentrer vraiment ce week-end. Ouais, c'est une énorme perte pour l'équipe UAE. Alors il y a toujours Almeida, il y a toujours Adam Yates, ils ont toujours une très grosse équipe, mais c'était quand même un maillon important de la chaîne du AE. Et puis surtout, s'il a le Covid, on ne sait pas ce qui se passe. Ça peut faire effet domino après dans une équipe. Hein. Est-ce que, tu l'as dit tout à l'heure pendant le direct, on est deux par chambre. Est-ce qu'ils ont tout de suite isolé Ayuso quand ils ont vu les premiers symptômes? On ne sait jamais ce qui peut se passer. Hein. Ils sont quand même en vase clos tout le temps les uns avec les autres. On ne sait pas. Ça, c'est surtout ça, je pense, qui doit inquiéter Mauro Gianetti et son équipe.
Avant de revenir sur cette question du Covid, on parle des coureurs qui sont éliminés comme Juan Ayuso, mais Cyril t'a mis un petit peu dans la caillasse, mais j'aimerais bien qu'on reparle du sprint. Parce que
on va en reparler après, là on continue sur le...
Ah très bien, d'accord.
Parce que là autrement ça parle en connaissance, les garçons.
Il y a une info importante qui est tombée. Bon bah écoute, sur Ayuso, effectivement, on l'avait dit d'ailleurs, les équipes elles sont en train de s'équilibrer ou de se déséquilibrer, ça va être très important. Moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui c'est plus UAE qui a pris un gros coup sur la tête quand même, parce que, et d'ailleurs il prend ce terme, Pogacar, de king de la montagne, de roi de la montagne, Ayuso, qui doit être avec lui logiquement. Aujourd'hui, à part Yates et Almeida, il perd quand même
essentiel. Il perd rien du tout.
Oui.
Pourquoi je veux dire qu'il perd rien du tout?
Ah bon, très bien. Il n'a pas perdu un équipier.
Si, mais c'est
peut-être... Il n'a pas perdu un gars qu'on imaginait éventuellement numéro 2.
Mais c'est peut-être sa chance.
Ah d'accord, ok.
Parce que maintenant qu'il va se sentir peut-être moins fort, puisqu'il a une équipe moins forte, et à partir de
faire
moins de bêtises.
Et à partir de ce moment-là, il va prendre Vingegaard comme équipier. Mm. C'est-à-dire qu'il va se mettre
faire du
en sparadrap
à la culotte.
On va le sparadrap, on va le changer
de position,
de postérieur. Mmh. Et qu'est-ce qu'il a à faire aujourd'hui? Il a juste à faire suivre Vingegaard. Et si Vingegaard, à un moment, il a une paupière qui tombe, il l'allume s'il a les jambes.
Malheureusement, c'est un attaquant. Et il veut.
Mais c'est pas malheureusement, c'est bien d'être un attaquant.
Oui, mais
sauf quand t'attaques n'importe quand.
Chasser le naturel, il revient au galop. Et lui, il va avoir.
C'est des phrases toutes fraîches.
Non, pas du tout.
Ça, c'est ce qu'on me disait quand j'étais gamin à la ferme. Chasser le naturel, parce qu'on continuait à faire les mêmes conneries.
Ah, mais parce que ça, il y a des vérités dans les dictons, monsieur Guimard. Il y a des vérités.
En tout cas, Cyril, Tadej Pogacar a lui-même annoncé qu'il allait courir un petit peu plus sur la défensive. Et voilà, pour en avoir discuté aussi avec le staff sportif de l'équipe UAE, on s'attend quand même à rester peut-être un tout petit peu plus en retrait. La cible désormais, c'est Vingegaard.
Si c'est vrai, c'est une erreur de le dire.
Néanmoins, j'extrapole un peu, mais néanmoins, Pogacar, on l'a vu sprinter tout à l'heure quand même pour essayer de faire un top 10. Voilà, et il s'en est presque vanté d'avoir voulu faire un top 10 et d'avoir pris des risques. Donc voilà, je suis pas sûr qu'il soit capable de rester si calme. Mais par
il
contre, juste pour terminer, on se posait la question de savoir si Ayuso c'était une perte ou pas. Tu m'as expliqué l'autre jour que Vingegaard il a besoin de personne, donc j'imagine que Pogacar il a besoin de personne non plus.
Il a besoin de personne à partir du moment où tu as un poisson pilote qui est ton adversaire direct. Et le nombre de coureurs qui ont gagné des Tours de France sans équipe et sans avoir d'équipier et qui étaient tout simplement sur le porte-bagages du type qui avait le maillot jaune ou qui pouvait gagner.
On a vu que de toute façon son équipe il savait pas bien l'utiliser. On l'a vu l'autre jour dans Lyon.
Jusqu'à maintenant il s'en est très mal utilisé. À part aujourd'hui où ils ont mis Adam Yates devant. Alors Adam Yates il a fait chier tous ses autres compagnons d'échappée, mais pour UAE c'était très bien. Par contre ils avaient quelqu'un, ça a fait stresser Visma, Ineos derrière qu'on dû rouler. Ils les ont usés un petit peu, mais c'est vrai qu'en montagne vers le Lioran ils ont très mal utilisé la puissance de leur équipe. Ça devrait être différent. Je veux dire, c'est pour comme a dit Cyril, pour Pogacar, c'est comme pour Guirmay avec le maillot vert. Pogacar, il reste dans la roue de Vingegaard. Guirmay, il reste dans la roue de Philipsen. Et les maillots sont peut-être joués.
Pourquoi aussi Pogacar court comme ça? Faut pas oublier que ses deux premiers tours, il les a gagnés tout seul. Et on n'arrêtait pas de le dire. En fait, ce gars-là, il n'a pas besoin d'équipier. Voilà.
Oui, mais
je pense
la vie,
que c'est ancré un peu, peut-être, dans sa façon de courir.
Non, alors à ce moment-là, s'il continue à courir de la même façon... Je vais me poser des questions sur son QI, je vais me demander s'il n'a pas perdu 30% de son QI.
Non, il y avait...
À un moment, tu as besoin d'avoir une intelligence de course, une intelligence de stratégie et utiliser les forces en présence. Tu ne peux pas gagner si tu ne tiens pas compte des champs de force. Si tu ne tiens pas compte des champs de force, eh ben tu fais du Pogacar.
Il y a une chose qui a changé dans l'entourage de Pogacar. Ses deux premiers tours, il les a gagnés avec un certain directeur sportif, Alan Piper, malheureusement, qui a atteint un cancer, qui a arrêté fin 2021. Mais c'était le seul qui arrivait à le cadenasser un peu, Alan Piper. C'est un super directeur sportif.
Il était plus jeune aussi, Poggy. Il se laissait peut-être un peu plus.
Oui, mais c'était un peu comme un mentor pour Pogacar, Alan Piper, en termes de stratégie de course, de conseils, etc. Et depuis qu'il est parti, il n'a pas regagné un Tour de France, Tadej Pogacar. Pour moi, c'est quand même pas anodin. Quand t'as un directeur sportif en qui t'as vraiment confiance, dit là tu bouges pas, là tu fais ci, là tu fais ça, tu le fais. Et je dis pas qu'il a pas confiance dans les autres, mais j'ai l'impression qu'il prend plus de liberté avec les directeurs sportifs qu'il a maintenant qu'il le faisait avec Alan Piper avant.
C'est pas anodin, on est à Pau, ça me fait forcément penser à Nicolas Portal. Le jour où Nicolas Portal n'a plus été là,
chez
du côté d'Ineos,
on
voit où est cette équipe
Cyril
aujourd'hui.
Peut en parler beaucoup mieux que nous. Hein. Franchement, l'important, on a beau dire maintenant ils sont téléguidés, l'oreillette, le GPS, tout ce qu'on veut, il y a quand même un homme derrière ou des hommes derrière, des directeurs sportifs, et on voit que quand on a un très grand directeur sportif, le champion va avec, et des fois quand le directeur sportif n'est plus là, bah, le champion est derrière.
Et qui est-ce qui parle aujourd'hui à l'oreille de Pogacar?
Alors, je ne sais pas si c'est Machin directement ou si Machin conduit la voiture.
Alors, il conduit la voiture, mais il me semble l'avoir vu parler, parce que je pense que je l'ai vu sur une étape de montagne, et il me semble l'avoir vu parler dans...
Mais tu as raison, mais il y a parler parce que tu donnes des informations, et puis il y a l'ascendant sur le sportif qui va peut-être remettre en cause ce que tu peux dire, mais qui va écouter et qui va exécuter. Ce sont deux choses. Bon, quand tu as la radio, bah, tu peux faire ce que tu veux. Tu chantes Dalida ou Johnny Hallyday. Mais tu vas donner des informations. Des informations, attention, ne tombe pas, il y a un virage à 300 mètres. Mais ce n'est pas ça le management. Le management, c'est le management des hommes qui est important. Et si vous avez un coureur qui a confiance en vous, que vous faites pratiquement jamais de faute et qu'à chaque fois ça fait tilt, vous avez la confiance du coureur.
Mais est-ce qu'on peut arriver à dicter ce qu'on veut à des grands champions? Tu l'as fait peut-être avec Bernard Hinault ou Laurent Fignon, mais aujourd'hui Pogacar, est-ce qu'il est à l'écoute de ce que disent ses managers ou ses directeurs sportifs?
On voit que
dans le foot, c'est de plus en plus compliqué. Est-ce que dans le vélo, c'est pas la même chose?
Oui, oui, mais enfin, bon, là, on est dans un autre monde. On n'est même pas sur le soleil. On est sur une autre planète, oui, bien enfin, plus loin que
es,
le soleil.
Tu es sur des mégastars, que ce soit.
Oui, bah, mégastars, pour ça, ils sont au-delà d'eux. Ouais. C'est pas le monde réel, le foot. Il y a quand même des choses qui sont bizarres. Et sur le plan moral, on pourrait en parler aussi. Et sur le plan de l'éthique aussi, d'ailleurs. Mais. Vous ne pouvez pas, quand tu dis « oui, mais tu pouvais imposer ». Bon, l'individu, il y a 50 ans, et l'individu d'aujourd'hui, sur le plan de son, de son non-conscient, la façon dont il fonctionne, rien n'a été changé. Tu peux mettre tous les outils que tu veux autour, il y a un moment, c'est l'homme en face de toi, droit dans les yeux, on fait quoi, on le fait comment? Est-ce qu'on adhère ou est-ce qu'on n'adhère pas? Et l'humain sera toujours ou le perdant ou le gagnant. On a des outils qui nous permettent d'aller plus loin dans la perception d'un certain nombre de choses. Mais si le coureur a totale confiance que vous avez la compétence pour l'emmener, c'est quand même vous qui, à un moment donné, donnerez le « là ».
Alors, on va évoquer dans quelques minutes, justement, les scénarios possibles demain et après-demain dans les étapes des Pyrénées. Un tout petit mot quand même, puisqu'on y revient sur le Covid qui refait son apparition sur le tour. On a vu Remco Evenepoel, par exemple, au protocole et ensuite partir à son bus avec un masque sur le nez. Donc, évidemment, il n'a pas le Covid. Hein.
Il avait la même chose à Florence, hein, rappelons-le au départ. Hein,
ouais, mais ensuite, il l'avait plus mis. Et là, évidemment, il y a des cas, il y a le cas Ayuso. Il y a eu Morkov aussi chez Astana. Donc voilà, il y a quelques cas quand même
qui apparaissent. Plus ceux qui n'ont rien dit.
De là,
ou qui ne le savent pas encore.
Ou qui ne le savent pas encore. Moi j'ai trouvé.
Oui, parce que Ayuso, qu'on a vu en difficulté il y a trois jours, il n'était pas à sa place déjà.
Oui.
Il n'était pas à sa place. Alors que sur la première étape de montagne, où on a pu dire à un moment. Ah ben il tire un petit peu au flanc. Apparemment il serait fait un petit peu sermonner pour venir rouler. Sauf que quand il a roulé, ça a tout fait.
Ils étaient plus que 5 derrière.
Donc là éventuellement qui se planque un petit peu c'est une chose. Mais quand il y va, il y va. Donc il avait les jambes. Il y a trois jours c'était pas vrai.
Hein. Oui.
Très bien, il est 19h33, on va continuer évidemment d'évoquer cette 13e étape du Tour de France. On va revenir sur le sprint parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit et tu as des informations que tu vas nous communiquer dans un instant, Pierre-Yves, concernant donc ce sprint, la chute de Capio, le coup d'épaule ou non de Van Gils. On va en débattre dans un instant et puis on s'intéressera donc ensuite à l'étape de demain et au scénario possible, imaginable entre tous les favoris de ce Tour de France. L'After Tour revient dans une petite minute, à tout de suite.
RMC, l'After Tour.
Christophe Cessieux.
L'After Tour, c'est tous les soirs sur RMC 100% route. À partir de demain, on sera en direct sur l'antenne d'RMC à partir de 19h jusqu'à 20h. Mais vous pouvez également rattraper le coup si vous ne pouvez pas être en direct et télécharger le podcast qui est disponible dès 20h, 20h15. Alors, il est soit rangé dans la case Grand Plateau, soit dans la case After Tour. Ça dépend des jours. C'est un peu au petit bonheur la chance. Mais en tous les cas, si vous faites les deux cases, vous avez des chances de le retrouver
quand même sur
notre podcast. C'est de gagner le gros lot. On va revenir sur ce sprint houleux. On a parlé de la victoire de Philipsen. Évoquons quand même la gamelle intervenue quelques mètres avant la ligne d'arrivée et la chute très impressionnante de Capio, le coureur de la formation Arkea, qui emmenait Démare et qui se relève parce qu'il a terminé son boulot de poisson pilote et d'un seul coup Van Gils le passe par la gauche et il y a pas la place et Van Gils donne un léger coup d'épaule ou plus qu'un léger
ou se protège pour essayer de passer en tout cas de se faire le plus petit possible. Alors on peut avoir l'impression qu'il y a un mouvement d'épaule avant de vous donner l'information, sinon ça va tuer le débat. Donc
oui, non mais alors qui est responsable pour les commissaires de
pour les commissaires, c'est effectivement Van Gils qui vient décoper d'une amende de 1500 francs suisses et 60 points au classement UCI pour comportement incorrect, coup d'épaule mettant autrui en danger.
Est-ce qu'on a une nouvelle de Capio, les blessures du coureur belge d'Arkea, pour l'instant pas encore?
Pour l'instant, ils attendent encore. J'ai demandé au staff de l'équipe Arkea, mais ils attendent encore des nouvelles. Il doit être au radio. Là.
Donc Van Gils désigné coupable par les commissaires de l'UCI. Je vois que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ça. Quel est le fautif dans cette histoire pour vous, Cyril? Tu as revisionné le
plusieurs fois. Oui, on a revisionné celui qui fait la faute, c'est Capio qui fait la faute. Capio se relève et il va partir le long des balustrades alors que Van Gil arrive en pleine vitesse. En aucun cas, Van Gil peut l'éviter. Même s'il freine. Et s'il freine, de toute façon, il emmène tout le monde derrière. Ça ne change rien.
Je ne sais pas s'il y a vraiment la faute de l'un ou l'autre. En tout cas, je ne pense pas du tout que Van Gils mette un coup d'épaule. On voit sur l'image, en fait, Capio, il est en train de s'écarter. Avant de s'écarter, il fait un truc très bien. Il regarde à gauche, il voit qu'il n'y a personne. Donc il commence à se déporter, il a fait son boulot, poisson pilote s'écarte. Mais Van Gils, lui, il est 3-4 places derrière. Il ne voit pas que Capio a regardé et va s'écarter. Donc lui, il lance son sprint à pleine vitesse avec Delis derrière lui. Et en fait, Capio, lui, a fini son boulot et commence à se rabattre sur la gauche. Et lui, il est lancé à pleine vitesse. Il met son vélo proche de la barrière et son corps proche de Capio et il va taper Capio. Mais pour moi, c'est très difficile à trouver un fautif si on doit en trouver un.
Mais en fait, la règle, elle est simple, puisque si on demande au sprinter de pas sortir de son couloir, le poisson pilote, il n'a pas à sortir de son couloir non plus. Et lui, il sort complètement de son couloir.
Mais au sprint, toutes les règles sont très simples sur le papier. Le sprinter ne doit pas sortir de son couloir, le poisson pilote non plus, il ne doit pas ralentir. Tout est simple, mais ça ne se passe jamais comme on veut. Et c'est toujours le bordel. On n'a pas eu un sprint net depuis le début du tour. On a eu des déclassements, on a eu des chutes. Cavendish, il n'a pas été déclassé sur sa victoire, mais ça va amener le débat. Voilà, on n'a pas un sprint qui est net et je ne vois pas comment pourrait faire des règles qui soient vraiment applicables sans le moindre doute finalement. Et là, alors il faut mettre un fautif, il y a quand même une gamelle, les commissaires à mon avis ils doivent mettre un fautif et ça va forcément tomber sur Van Gils parce que finalement c'est un peu lui qui provoque la chute indirectement. En tout cas Arnaud Delis lui il n'est pas du tout d'accord avec ça et il met vraiment la faute sur Capio en disant que tant que l'UCI ne mettra pas des règles claires sur comment les poissons pilotes doivent s'écarter etc, ça sera toujours le bordel comme ça. Et Delis il est assez virulent quand même dans ses propos. Alors bien sûr il ne va pas charger son coéquipier Van Gils, il ne va pas leur mettre la faute sur lui, mais pour lui c'est clair et net, il était dans le sprint que c'est la faute à Capio. Faute à qui? Moi personnellement je ne sais pas, mais je ne mettrai pas plus la faute sur Van Gils que sur Capio.
Mm-hmm. Arnaud, tu as revu le sprint?
Oui, j'ai revu le sprint. Alors moi, j'ai pas la même expertise que vous, mais moi je trouve quand même qu'il met un petit coup.
Non, il a plus la place de passer. Regardez les images.
Après, voilà. Mettre un coup d'épaule, ça serait arriver à la hauteur de Capio et là sortir et mettre le coup d'épaule. Mais il est déjà en train avant. Mais là où je rejoins, il le voit, il est déjà le corps un peu sur le côté.
Il sait que ça va pas passer.
Soit. Mais là où je rejoins Delis, moi par contre, c'est je me faisais la réflexion et avant ce sprint d'aujourd'hui, franchement. On a compté 22 sprinteurs, donc potentiellement ça veut dire que t'en as allé 5 ou 6 vraiment qui vont se disputer la victoire avec 5 ou 6 poissons pilotes. À un moment, comment les mecs font pour passer?
Parce que tu peux pas mettre des autoroutes.
Et parce que les chaussées, en plus, la chaussée de l'arrivée à Pau aujourd'hui, et on pouvait faire la même réflexion pour l'arrivée hier à Villeneuve-sur-Lot, c'est quand même pas non plus des chaussées qui font 20 mètres de large. Quoi.
Mais le débat, il date
vous savez qu'à une époque, quand il y avait un raisonnement, on va dire, censé, on avait mis un règlement sur les poissons pilotes. Il a existé. Et certains coureurs ont été pénalisés parce qu'après s'être écarté, redescendaient au milieu du peloton, et je vais vous dire des trucs beaucoup plus vicelards, descendaient au milieu du peloton et pratiquement gênaient tous les coureurs qui étaient obligés de contourner ce rond-point mobile. Mais surtout, ils se décalaient pour venir empêcher les coureurs de déboîter dans la roue du sprinter. Donc ils arrêtaient le sprinter, au risque de tout mettre par terre. Donc il y avait une règle, il y a eu plusieurs coureurs. Et puis après, cette règle a disparu.
Non mais l'an passé, rappelez-vous, Mathieu Van Der Poel, il est déclassé. et Philipsen gagne, mais là, on aurait dû le déclasser, Philipsen, parce que si Mathieu Van Der Poel n'est pas là, Philipsen ne gagne peut-être pas. Donc, c'est un binôme, finalement, le poisson pilote et le sprinter, parce que ce que vient d'expliquer Cyril, c'est exactement ça. Si le poisson pilote fait son boulot et s'écarte un peu au milieu et gêne les autres, ben, en fait, tu favorises aussi ton sprinter. Donc, en fait, ça marche par pair, quasiment.
Mais est-ce que les sprinters devraient quand même, à chaque fois, essayer de passer, même quand ils ne peuvent pas passer? Est-ce qu'il ne faudrait pas, tu vois,
mais je veux dire, quand il n'y a pas la place, tu ne peux pas le faire. Il est complètement surpris, parce que quand il sort, il est à l'aveugle, et d'un coup, il tombe sur Capriot.
J'ai essayé de vous faire comprendre que si Van Giel, il freine, derrière, tout le monde est par terre. Ils sont à 65 à l'heure. S'ils freinent pour ne pas toucher... Non, mais excuse-moi. S'ils freinent pour ne pas toucher, les mecs qui sont derrière, ils n'ont pas le temps de freiner, même avec les freins au disque, et ils sont tous par terre. Il y a la même gamelle derrière qui touche ou qui ne touche pas. Bon, maintenant, si vous voulez m'expliquer quelque chose, lunaire, non, il y a, c'est très net, très clair, et il n'y a pas de discuter.
Il faut fermer les yeux et tu t'en fiches des dégâts que tu peux faire. Non, tu y vas, tu fonces, tu essayes de passer, mais si ça passe pas, et tu freines pas, parce qu'autrement, tu fais tomber les autres.
Mais c'est pas ce que je dis.
Donc,
mais tu peux pas l'éviter.
Non,
la chute n'est pas évitable.
Parce que dans les sprints, il y a énormément. Les sprinteurs ont plein de règles, hein, de règles qui ne sont même pas écrites, des règles tacites. Ils savent. C'est une casse qui est vraiment spéciale. Alors, OK, ils n'ont pas la même notion du danger que nous, mais c'est pas non plus. Ils ne veulent pas aller au carton non plus à chaque fois. Hein. Ils prennent plus de risques, mais comme ils arrivent à 70 à l'heure, les grimpeurs, tu prends des risques pour remonter un mec dans le Tourmalet, tu roules à 15 à l'heure, tu vas pas te faire trop mal, tu vois. Mais il y a quand même des règles. C'est quand même assez. Net, hein, entre eux. Alors, il y a des sprinteurs plus cascadeurs que d'autres et plus borderline que d'autres, mais dans l'ensemble, ils respectent quand même leur propre code.
Moi, j'ai une question, Cyril. Pourquoi, là, Van Giel ne serait pas pu freiner alors que, par exemple, Van Aert l'a fait hier?
Non, mais attends.
Ah, mais c'est pas la même situation.
On est le long des barrières.
Non, mais attends. Regardez les. Attends. Des sprints, j'en ai fait 5000. Hein, et vous, ça frottait. Bon. Donc, je sais de quoi je parle. Bon. Quand tu arrives sur un coureur qui est là, où tu as la place de passer, tu freines pas. Il ferme un peu plus. Tu sais que tu vas pas passer. T'essayes quand même parce que t'as pas le choix. Si tu mets le coup de frein, t'emmènes de Lille.
Non mais Van Aert hier, pourquoi c'est différent? Parce que démarre, il ralentit pas. Démarre, il est à pleine vitesse lui pour aller. Et il referme un peu la porte. Mais si démarre était le poisson pilote et s'écartait comme a fait Capio aujourd'hui, eh ben, Van Aert, soit il est par terre, soit il doit mettre un gros coup de patin et c'est ceux de derrière qui tombent.
Mais de toute façon, s'il freine, c'est mort derrière.
On précise. Donc, faut pas freiner. Faut débrancher le cerveau, pas freiner.
Mais c'est pas ce que je dis.
Et tenter le tout pour le tout.
Mais non, c'est pas ce que je dis.
Cyril, on précise, c'est pas Rouget de Lille, c'est Arnaud de Lille. Hein. Et alors moi j'ai une solution.
Oui, mais vous arrêtez pas de parler de poissons.
Ah oui, c'est les poissons pilotes. Bah justement, moi j'ai une solution. Pas de poissons pilotes.
Pas
après,
de sprint.
Après la flamme rouge.
Pas de sprint.
Au-delà de la flamme rouge, pas de poissons pilotes.
Au-delà de la flamme rouge, un seul coureur par équipe.
C'est impossible.
On les arrête et on fait un truc.
La règle des 3 km. Cette fameuse
règle. Nous on est bien dérivés. Et bah, marche bien celle-là. De la ligne d'arrivée.
Non, cette fameuse règle des 3 km, elle existe depuis 1000 ans. Maintenant, on essaye de la décaler à 4 ou 5 km suivant le final. Justement pour que les leaders, bah, eux, se laissent glisser et laissent finalement les sprinteurs et leur équipe ou leur poisson pilote se disputer le sprint. Mais on voit par exemple qu'aujourd'hui, Pogacar, il est quand même là dans le sprint, par exemple. Parce qu'en fait, c'est...
Alors qu'il n'a rien à y faire.
Il a le droit d'aller chercher une victoire d'étape.
Il a le droit d'aller chercher une victoire d'étape. Mais en fait, cette règle, elle existe que s'il y a un problème. Mais imaginez qu'aujourd'hui, il n'y a pas la chute et que vous avez une cassure.
Une cassure et Pogacar, il prend des secondes.
Et voilà, Pogacar, il prend des secondes. Donc en fait, c'est soit on dit on coupe les temps à 5 km ou à 3 km, et là, vous pouvez finir à 2 à l'heure si vous voulez, mais tout le monde sera dans le même temps, chute ou pas chute. Et là, t'es sûr que les leaders, ils vont plus aller s'amuser devant.
Ils vont freiner.
Mais tant qu'il y a potentiellement des cassures, s'il n'y a pas de chute, ils vont continuer à les frotter aussi.
Ça serait pas ça la solution, finalement.
Mais je sais pas.
Enfin, alors... c'en est une.
Ouais, je sais pas, mais ça enlèvera pas.
Mais faut pas qu'il y ait une bosse, faut pas que.
Voilà.
Ouais. Et on va retomber sur la chute de Roglic,
etc.
Il est fort probable que nous ayons à nouveau ce débat l'année prochaine, l'année d'après, dans 5 ans.
Même la semaine prochaine.
On l'aura jusqu'à notre mort, ce débat.
Bon, il faudra m'appeler. Alors.
Le plus tard possible, quand même.
On t'appellera. Un sprint où les Français, malheureusement, jouaient les seconds rôles. On rappelle tout de même le résultat. Le premier Français, c'est Clément Rousseau, la Groupama FDJ qui termine 7e. Ouais, c'est une belle perf, c'est pas un, lui aussi, lui, c'est un poisson pilote, mais il a plus de leader pour le sprint dans ce tour, donc il joue sa carte personnelle, et il termine devant Brian Cocquart, qui lui donc termine à la 8e place. Brian Cocquart, vous allez l'entendre furieux à l'égard de la politique de son équipe, l'équipe Cofidis. On l'écoute et on en débat juste derrière. Brian Cocquart.
Bon, j'ai pas grand chose à dire. Moi, j'ai fait beaucoup d'efforts avant de pouvoir me placer dans le sprint. J'ai fait beaucoup de 2-3 sprints avant de pouvoir réellement sprinter. On faisait encore aujourd'hui chacun notre sprint. Et voilà, moi, je suis déçu et frustré et énervé de cette situation. Mais voilà, je fais 8e et je sais pas ça fait combien de points UCI pour l'équipe, mais ils doivent être contents. Pas du tout bien. C'est difficile pour un sprinter d'avoir le leadership au départ et de se le voir retirer, on va dire. Surtout après l'étape de samedi où voilà, l'équipe a vraiment un super boulot. Je me suis raté, certes. Et du coup, par la suite, à la suite de ça, la direction a décidé qu'on fasse chacun nos sprints. Et du coup, c'est frustrant, bien évidemment.
Voilà, Brian Cocquart, qui garde son sang-froid, mais on sent derrière ses propos qu'il en a gros sur le cœur à l'égard de son manager, Cédric Vasseur, qui a donc décidé, parce que Brian avait raté un sprint samedi dernier, a décidé désormais de ne plus donner de hiérarchie dans l'équipe en matière de sprint. Zingle et Cocquart sont donc libres de faire ce qu'ils veulent, et l'un n'est pas au service de l'autre. Et c'est un changement total par rapport au postulat de départ.
Peut-être qu'il y a un autre élément dans la réponse qui est très important, c'est l'histoire des points UCI. Je regarde le classement au 9 juillet, hein. Cofidis, ils sont 20e. Donc l'idée, c'est peut-être de dire, de la part de Cédric Vasseur, c'est essayer de vous placer le plus haut possible tous les deux, finalement, pour qu'on ramène le plus de points possible.
Ouais, la morale de l'histoire, c'est qu'ils en ont pris 40 aujourd'hui, puisqu'il n'y en a qu'un seul dans le top 15.
Ouais, bon, alors Zingley a été pris dans la chute.
Oui.
Après, ça, c'est une théorie, mais si c'était ça, il aurait expliqué à Brian Cocquart, et éventuellement, il aurait pu comprendre. Vu l'interview de Brian, je ne suis pas sûr que ça soit vraiment ça les raisons, s'il en a eu. En tout cas, c'est très rare d'avoir des coureurs... Les managers, ça arrive, qu'ils arrivent devant les médias et qu'ils disent ce qu'ils pensent. Patrick Lefebvre, Cédric Vasseur l'a fait sur Axel Zingley il n'y a pas longtemps. Les coureurs, c'est quand même très très rare. Pour en arriver à avoir des micros tendus devant vous et à balancer sur votre...
Surtout dire ce connaissant va pas. Brian Cocquart, voilà, qui est plutôt sur la réserve.
Connaissant Brian, l'ambiance doit être exécrable dans cette équipe et on a dépassé le mi-tour, mais ça doit être très très compliqué et ils ont plus que 5 coureurs parce qu'ils en perdent sur maladie, etc. L'ambiance là, c'est quand même très 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 compliqué et je crois qu'il y a un vrai problème dans cette équipe.
Oui, alors Zingley est dans la chute.
Oui, bien sûr.
Et s'il n'est pas dans la chute, il est devant Cocquart.
Oui, et ça fait pas mal de points.
Parce qu'il est quand même au niveau de Dely. Oui, parce que c'est peut-être, je ne sais même pas si c'est pas le premier ou le deuxième qui percute.
C'est une bêtise, Cyril, de ne pas établir de hiérarchie dans le sprint au sein de la formation Cofidis, de les laisser libres de faire ce qu'ils veulent, et du coup de ne pas avoir de poisson pilote pour l'un ou pour l'autre, quoi.
Alors, ça peut être une erreur, une bêtise...
Oui, une erreur.
Non, une erreur.
Restons sur l'erreur.
Restons sur l'erreur. Incontestablement... Il y a un problème pour poser les choses et surtout pour faire adhérer les coureurs. On l'évoquait tout à l'heure par rapport à Pogacar. On est toujours à un moment, et là, la réaction de Cocquart, elle est quand même significative. Il y a un problème de management humain. Parce qu'on peut mettre toutes les théories, tout ce qu'on veut. Il faut que les hommes eux-mêmes... soit dans l'acceptation d'eux, et donc dans l'adhésion d'eux.
Et là, a priori, c'est plus le cas.
C'est pas le cas. Les déclarations qui ont été faites ne correspondaient en tout cas pas à l'aspiration de Brian Cocquart. Maintenant, est-ce que Cocquart, aujourd'hui, va aussi vite que Zingley ou pas? Moi, je pense que Zingley, aujourd'hui, va plus vite. Bon. Mais après, il faut prendre les bonnes décisions... Et puis les faire appliquer dans la mesure du possible. De toute façon, l'équipe Cofidis, elle n'a pas de train. Tu peux avoir un poisson pilote. mais ça ne sera pas un train qui pourra t'emmener.
On se souvient l'année dernière qu'au sein de la formation AG2R, ce n'était pas encore Décathlon, on avait comme ça changé de leader. Ce n'était pas pour le sprint, mais changé de leader pour le classement général en cours de Tour de France. Parce que l'Australien
Ben O'Connor
n'était plus dans le coup. Alors du coup c'est...
Idem chez Ineos d'ailleurs.
Et idem chez Ineos avec Pidcock. Donc on peut aussi changer de stratégie en cours de Tour en fonction de l'état de forme des uns et des autres.
Il n'y a rien qui est figé.
Sauf que là, ils n'ont pas vraiment changé de hiérarchie, mais ils ont dit démerdez-vous. Quoi,
ouais, puis c'est ouais, différent des sprinteurs et ouais. Du classement général. Parce que le classement général, la situation va s'éclaircir un peu naturellement. O'Connor était moins bien, Félix Gall était beaucoup mieux. Ben, voilà, tu changes de leader et ça se fait, entre guillemets, sans trop de problèmes. Et le mec qui se fait, entre guillemets, remplacer, ben, il comprend, il voit bien de toute façon qu'il n'arrivera pas à suivre les premiers, à atteindre son objectif, etc. Là, sur un sprint, tout peut arriver à chaque fois. Et n'importe lequel peut gagner finalement. Et là, c'est pas, il n'y a pas eu de changement. Ils n'ont pas dit « Brian, tu vas emmener Axel Zinglé ». Ils ont dit « Vous faites chacun votre truc et en gros, démerdez-vous ». Mais ça,
allez chercher des points.
Ouais, mais, peut-être. Ce n'est pas l'impression que j'ai eue dans l'interview. Mais Cofidis, ils sont plus que 5. Tu as l'impression que c'est 5 équipes de 1. Tu as Guillaume Martin qui attaque dans le final. il va être tout seul dans la montagne. Il n'y a aucune cohésion. Ils ne sont déjà plus beaucoup et il n'y a aucune cohésion. Donc, je ne sais pas. Après, à la fin, on n'a pas entendu la fin de l'interview de Brian Cocard. Il a quand même précisé qu'il n'avait aucun problème avec Axel Zinglé. Donc, ça n'a pas l'air d'être une guerre entre eux. C'est vraiment un management et des décisions prises par les DS ou le manager.
Très bien, on va changer de...
On est mal barré pour rester en Pro Tour chez Cofidis. Hein. En World Tour.
On change de sujet, on va évoquer rapidement la situation de Primoz Roglic qui malheureusement a dû abandonner le Tour de France ce matin suite à sa chute et aux blessures rencontrées hier à 12 km de l'arrivée. Primoz Roglic, c'était un peu sa dernière chance cette année. Si encore on pouvait considérer ça comme une dernière chance de remporter le Tour, il a 34 ans, il avait une équipe autour de lui, une grosse équipe, et là, une nouvelle fois frappé par la malchance ou par la maladresse, difficile de dire, peut-être un peu des deux.
De toute manière, il avait déjà, je pense, montré qu'il était légèrement inférieur, voire très inférieur à Vingegaard et au moins à Pogacar. Après, oui, c'est sûr que là, ça me semble quand même être la dernière chance qu'il vient de laisser passer, mais je suis même pas sûr, qu'on pouvait faire parler de chance, mais je pense que même sa dernière chance c'était 2020, c'est là qu'il a laissé véritablement passer sa chance. 34 ans, il va falloir revenir, je pense que là le moral en a pris un coup, dans la façon dont on nous en a parlé ce matin au bus de Red Bull Bora, et notamment avec Rolf Aldag, l'un de ses directeurs sportifs. On a conscience quand même que Primoz Roglic, il a plus peut-être même abandonné par dépit que par douleur.
Et d'ailleurs, l'image de Roglic hier dans les derniers kilomètres de l'étape, visage fermé avec ses lunettes, mais tu sentais que
c'était plié.
À la casquette, c'était terminé.
On peut le comprendre. Il est passé à ras, gagné le Tour de France. Il chute, j'ai dit la stat tout à l'heure, mais il a une chute tous les 18 jours de course à peu près.
C'est quand même énorme. Ça veut dire que tu as au moins une chute par course de 3 semaines. C'est incroyable.
Quasiment. Donc il en a déjà eu 2 en 2 jours. Parce qu'il était tombé la veille dans la roue de Remco Evenepoel. Donc oui, il y a de la malchance. Je pense qu'il y a aussi de la maladresse. Et pour moi, le train est passé pour Primoz Roglic pour gagner le Tour. D'autant plus qu'il y a quand même des bruits qui courent et qui montent que Red Bull veulent rapatrier leurs coureurs sous contrat de manière indépendante, dont Remco Evenepoel. Remco Evenepoel, Tom Pidcock. Bien sûr que... Quand ils ont pris...
Van Aert ?
Oui, j'allais dire, il n'y a pas un Van Aert dans le coup.
Peut-être Van Aert aussi.
C'est un coureur Red Bull.
Bien sûr, c'est un coureur Red Bull. Alors, je rappelle que Red Bull, eux, se défendent en disant non, parce que Van Aert, c'est avec Red Bull, et Evenepoel, c'est avec Red Bull Belgique, Pidcock, c'est avec Red Bull Grande-Bretagne, etc. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est des conneries.
On raconte ce qu'on veut.
Ça, c'est des conneries. Et ils essayent. Et puis, quand même, Evenepoel, j'y croyais pas trop, mais apparemment, ça pousse un peu pour dire que c'est quand même en bonne voie. Pour quand, je ne sais pas. Mais ils savent très bien, quand ils l'ont pris l'année dernière, quand ils ont pris Primoz Roglic, Red Bull n'était pas encore là. C'était le seul leader disponible pour essayer d'aller gagner le Tour. Mais ils savent qu'il a 34 ans. Maintenant, il faut miser sur des jeunes. Alors, ils ont Vlasov, ils ont Hindley, mais est-ce qu'ils ont la carrure pour aller gagner le Tour ? Je ne pense pas.
Pourquoi ils ont laissé partir Uiterbrugs dans ce cas-là ?
Alors ça, je pense que c'était un problème de relationnel plus que de performance pure, à mon avis. Et puis, lequel derrière est capable d'aller titiller ou de se rapprocher de Pogacar et Vingegaard, bah, à part
Evenepoel, j'en vois pas. Il n'y en a pas beaucoup. Hein.
Parce que Tom Pidcock, il a beau crier partout qu'il veut gagner le Tour, pour l'instant, il est encore à des années-lumière.
Non. Il ne fait pas partie des coureurs aujourd'hui capables de gagner le Tour.
Lui, il le dit, mais sur le terrain, on ne le voit pas.
Il essaye de s'auto-persuader. Les quatre fantastiques ne sont donc plus que trois. Hein, trois hommes qui se tiennent en 1 minute 14. Demain, la grande bataille de la montagne va donc débuter. Comment voyez-vous les choses? Pogacar, avec sa minute 14 d'avance, semble dans la meilleure des positions. C'est votre avis, Cyril? C'est ton avis, mais aujourd'hui, enfin demain, Pogacar ne doit pas commettre les mêmes erreurs qu'il a commises dans l'étape du Massif central avant-hier.
Ben, la règle, elle est simple. Il vient de perdre deux Tours de France. Il a perdu deux Tours de France, ou plus exactement, il a fait cadeau de deux Tours de France. Là, la façon dont il continue à courir aujourd'hui, s'il continue à courir comme ça, il fera cadeau d'un troisième Tour de France à Vingegaard.
Parce que tu penses que le fait qu'il soit écroulé, entre guillemets, lors du contre-la-montre l'année dernière, c'est une erreur ou c'est...
L'an passé, c'est spécial. C'est spécial. C'est plus il y a deux ans où vraiment là, il fait n'importe quoi, et je suis d'accord avec Cyril, il fait cadeau du Tour presque.
Ah oui, il fait cadeau du Tour.
L'année dernière, il ne fait pas cadeau du Tour.
Il arrive blessé, on ne sait pas sa forme.
Effectivement, il attaque pour grappiller 2-3 secondes dans toute la première partie du Tour.
Mais au départ, il est déjà en dessous, parce qu'il n'a pas eu... Alors, vous allez me dire, Vingegaard, là, il est au niveau, mais il est quand même à 1 minute 14 derrière. Donc, c'est pareil. Finalement, il est quand même un petit peu moins bien. Mais je suis d'accord avec Cyril. S'il court de la même manière que... Alors, surtout il y a deux ans, mais il va reperdre le Tour de France, même s'il a 1 minute 14 d'avance. Et là, la stratégie, elle est simple. Il reste derrière Vingegaard, et c'est à Vingegaard...
Ça va le chatouiller quand même.
Et Vingegaard, la chance, j'ai presque envie de dire, de Pogacar, c'est que Vingegaard, s'il court bien, Vingegaard n'a plus l'équipe pour jouer.
Ouais.
Donc c'est à Vingegaard de faire le jeu demain et d'essayer... Mais que peut-il faire? Il ne va pas attaquer de loin, il ne va pas faire une course à la
Pogacar. S'il ne peut pas larguer Pogacar, c'est simple. S'il ne peut pas le larguer, Pogacar a gagné. Sauf à se faire enrhumer sur la dernière étape à Nice.
Okay.
De toute façon, Vingegaard, il doit grappiller il doit refaire son retard. Mais il ne va pas pouvoir claquer 1 minute 15 d'un coup, peut-être. Donc lui, sur les deux
dernière,
étapes qui viennent...
Le col de la Lauze, il avait claqué...
Ouais,
il
prend une 38 sur le chrono aussi.
Mais le chrono, là, il arrivera le dernier jour. Il ne peut pas se dire, moi, je reste avec Pogacar, puis on se débrouillera sur le chrono. On va s'expliquer sur le dernier chrono. Je ne pense pas. Donc, il n'a pas l'équipe. Il doit attendre les dernières difficultés, essayer d'attaquer, grappiller des secondes par-ci, par-là. Et si Pogacar est bien, quand Vingegaard va se rasseoir, contrer, et là, ça va être l'effet inverse. C'est lui qui va aller grappiller des secondes. Parce que ce qu'il a fait au Lioran, s'il le fait 15 bornes plus loin, peut-être qu'il a encore 30 secondes de plus d'avance, Pogacar. Mm-hmm. Mais il faut qu'il roule avec le Fram et qu'il se colle dans la route Vingegaard.
Donc demain, la grande bagarre, elle se fera a priori dans le Planadé, dans le dernier col de
derrière,
la journée.
Mais moi, je pense qu'il y aura une belle échappée devant.
Mais la bataille pour le général, elle va se limiter au dernier kilomètre de la dernière ascension.
Pour ceux qui sont loin et pour les baroudeurs, c'est génial. Parce qu'à mon avis, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'opportunités pour eux maintenant.
Alors raconte-nous justement, Jérôme, à quoi ressemble l'étape de demain. Je sais que tu l'as étudiée.
Ouais, elle va partir sur le plat, plutôt plat, et c'est à partir de Lourdes, on verra s'il y a un miracle pour Vingegaard, que ça va commencer à se durcir, et surtout à partir du sprint intermédiaire, où là, ça va déjà commencer à bien monter. Là, il restera à peu près 80 km, et surtout un enchaînement de trois cols. L'enchaînement va être terrible. Le premier col hors catégorie du Tour avec le Tourmalet, 19 km, 7,4%. La descente par la Mongie, ultra technique, ultra rapide, avant d'aller monter la Ourquette dans 6 ans, 8,2 km à 5% de moyenne. De nouveau, une belle descente et la fameuse montée vers le Plat d'Adet, 10,6 km à quasiment 8% de moyenne. C'est un certain Maika qui avait gagné la dernière fois qu'on était monté là-bas, et au Plat d'Adet.
Entre-temps, il y a eu le col de portée
exactement,
avec Quintana.
Et Maika, qui est un des meilleurs amis de Tadej Pogacar, donc je pense qu'il lui aura peut-être donné
quelques conseils.
Il n'y a pas 5 ans de conseils. C'est t'attends les 3 derniers kilomètres de la montée de Soulan, et puis ça se joue là. Donc il ne se passera rien demain il se passera rien.
Tu ratonnes pendant toute l'étape et puis tu sautes sur la ligne.
Qu'est-ce qui est important, c'est d'être premier à Nice.
Bravo.
C'est pas de jouer au chevalier.
On n'aime pas le panache.
On aura du panache.
Nombre de coureurs ont perdu des grandes courses parce qu'ils voulaient panacher.
Allez, ce soir c'est panaché pour tout le monde.
Très bien. Merci messieurs. On se retrouve évidemment demain dès 14h pour cette grande étape de montagne, donc entre Loudenvielle. Entre, même s'il ne va rien se passer
demain, on va quand même la faire.
Demain part de Pau.
Demain, c'est Pau. Ça part d'ici. Très bien. Entre Pau et le plat d'Adé. Donc direct dès 14h. Merci.
Vous savez qu'un certain Martinez avait gagné au plat d'Adé en 1978. Grand-père de Lenny.
Ah, donc toi tu vois bien.
Je vois rien du tout, mais.
Avec lui, on sait plus trop là.
Mais c'est pas idiot.
C'est pas idiot. On verra demain. On pariera demain vers 15h30. Bonne soirée, à demain. Ciao.
RMC jusqu'à 20h.
L'After Tour.
Get to Smoothie King today and try the new blueberry, raspberry, or watermelon lemonade smoothies. They're all made with real fruit, real juice, and no bad stuff. Just check out the no-no list at smoothieking.com. Try the new lemonade smoothies at Smoothie King today.